C'est en montrant notre stupidité, notre colère et nos états les plus bas que l'on va pouvoir diriger les êtres. Parce qu'ils verront qu'on est comme eux.
Oh.
Leur montrant qu'on est comme eux, quand ils verront les modifications de notre pensée, ils ne pourront pas dire qu'on était différent dès le début. C'est pour ça qu'on montre l'aspect, volontairement ou involontairement, de l'orgueil, de la stupidité, de l'avidité. C'est comme ça qu'on mène les êtres vers l'éveil, nous, qui n'aiment pas des Bouddhas. Alors, pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que la sagesse vient avec l'âge. Ils croient ça. Ce qui est complètement con. Mais Shakyamuni l'avait dit. Dans le Dhammapada, Shakyamuni dit que l'homme ignorant de la réalité vieillit à la manière du bœuf. Son poids augmente, mais non pas sa sagesse. Shakyamuni. Et aussi, donc, ce qu'il faut noter, c'est que le fait d'avoir rencontré la loi, c'est la règle du diamant, en fait. Il y a un concept bouddhique qui dit ça. Donc, on parle de quelqu'un de la loi, il y a deux possibilités. Soit il pratique, il atteint l'éveil, soit il pratique, il arrête, ou il refuse. Et dans ce cas, de toute façon, à un moment, dans la souffrance, il ne pourra pas ne pas désirer en sortir. Désirant en sortir, à ce moment-là, le souvenir d'avoir entendu la loi fait qu'il réapparaît dans les conditions où la loi est développée. Donc, nous, on enseigne la loi, et que l'individu commence à pratiquer, atteindre l'éveil, ou s'y oppose, ou arrête et s'y oppose, à un moment, sa vie sera tellement en enfer qu'il reviendra, pas juste une distance ou un temps, plus long pour lui. Hein.
C'est
chaque beaucoup, c'est en parler, bien sûr. Et donc, quelque part, si vous considérez une boussole, la boussole a une vertu qui est d'indiquer toujours le nord. Et bien, de la même manière, dans l'état de Shomon, où on quitte les six voies, la vie oriente toujours vers la modéité. Que ce soit avec des hauts et des bas, ou directement. Un tel aiguille orientée vers le nord, la vie sera orientée vers l'éveil, parce qu'à un moment, on en a parlé. D'accord? C'est ça le sens profond de chaque mot aussi. Pour cela que Nichiren dit, ceux qui n'ont pas d'aspiration à l'éveil ne s'éloignent pas des naissances et des morts. S'éloigner des souffrances, des naissances et des morts, c'est aller vers l'éveil. Le huitième état maintenant, qui devrait nous être extrêmement familier, qui est donc Engaku, c'est-à-dire que ça signifie éveil partiel par les facteurs ou par les conditions. Ça veut dire qu'entrant dans la voie, en rentrant dans le bouddhisme, l'étape suivante, qui devrait être naturelle pour tout le monde, c'est de vivre des éveils partiels en soi. Alors, le grand patriarche dit que, à propos des concepts profonds du bouddhisme, ces concepts nous permettent de ressentir une certaine illumination et une certaine sagesse issue de nos 10 états, et sont destinés à nous aider à atteindre l'éveil. Donc, c'est ce qui se passe. Pratiquant, on doit pouvoir vivre des états d'éveil partiel. En général, ça vient d'une confrontation douloureuse à quelque chose. C'est le moment où il faut abandonner son existence, en général, hein, qui produit ça. Mais globalement, Nichiren dit que le fait que toute chose en ce monde soit éphémère est évident. N'est-ce pas parce que les deux états d'auditeur et d'éveil partiel sont présents dans le monde de l'être humain? Et de fait, il y a des êtres humains au sein des six voies, n'ayant pas rencontré les voies bouddhiques, qui, somme toute, malgré tout, réalisent certaines choses. Ils tendent vers le bouddhisme. Donc ils voient que, par exemple, tout est effet. Ils voient que la volonté n'existe pas, que la pensée n'existe pas, que ça s'impose, que ce n'est pas un acte. Des gens comme Parménide, Empédocle, Schopenhauer, Nietzsche, sont des gens qui, sans recevoir l'enseignement du Bouddha, sont collés en haut des six voies et l'attendent presque, sont dans le sens de le faire apparaître, vous voyez. Au sein des six voies, il y a quand même cette propension, en termes de qualité de vie, en direction de l'éveil. Il y a, ça existe.
Tu n'entends jamais plus de
l'éveil. Ah, mais j'entends de toute façon. Ah oui, un jour ou l'autre, bien sûr. Ah oui, ils sont tellement à attendre ça, à vouloir ça, à ressentir le besoin qu'à un moment, ils sont dans un endroit où l'enseignement est développé, ça c'est clair. C'est tout à fait clair, bien sûr. C'est pas poreux. Et moi aussi, il y a une porosité. Les six mondes, c'est pas fermé. L'enseignement du Bouddha entraîne les êtres vers l'éveil, donc il n'y a pas d'étanchéité.
Il y a
C'est-à-dire que... Quand Nietzsche, par exemple, voilà, ou quand Parménide ou Empédocle ou Nietzsche ou Schopenhauer voit que la pensée n'existe pas et qu'on est pieds et poings liés et que tout apparaît comme effet, ils ne retournent plus en arrière. Ils sont, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils cherchent. Ça permet pas d'éveil, mais ça permet de rencontrer l'enseignement un jour ou l'autre.
Et là, vous pensez une fille.
Voilà, ce qu'ils rencontrent. Donc le Zizi dit que, dans le Makashikan, il dit « Le bien que l'on émiette distraitement agit faiblement, il ne peut rien changer. Par contre, la pratique de la cessation des troubles et de l'observation de l'aspect réel, effectuée bien portant ou malade, fait mouvoir la roue de la vie et de la mort. » Ça, c'est notre pratique, à tous, matin et soir. Le bien qu'on émiette distraitement sont les actes sensibles que les gens font comme ça. On donne de l'argent pour son ami, on en donne pour avec des marques à une maison, je sens ça bon. Sincèrement, les gens veulent donner un peu d'argent ou de quelqu'un, machin, bon. Mais Zizi dit, c'est le bien qui est émietté distraitement et qui agit faiblement, il ne change rien. Par contre, observer son propre cœur, que l'on soit bien portant ou malade, ça, ça fait mouvoir la roue de la vie et de la mort. Donc c'est là notre, c'est ce que l'on fait nous. Et il y a un dialogue entre deux disciples de Shakyamuni, il y en a un qui dit à l'autre, où se trouvent les graines de la modélité? L'autre répond, elles sont dans tous les petits fracas du quotidien. Parce qu'on est entré dans la voie. Voilà, les petits fracas, les troubles, les petites choses, deviennent ceux qui nous amènent à les
autres.
Tout. Voilà, tous les phénomènes deviennent nos maîtres, et grâce à eux, on s'y éveille, et ils deviennent disciples. C'est comme ça, l'entrée dans la voie. Neuvième étape, Bodhisattva. Donc là, Bodhi, c'est la sagesse du Bouddha, et Satta, c'est être sensible, sensitif. Autrement dit, c'est vivant. Dans le bouddhisme, les êtres ne sont pas vivants. Ils sont considérés, dans les six voies, comme étant non porteurs de leur existence. Parce que tout apparaît en tant que effet. Donc il n'y a que les bodhisattvas qui sont considérés par le Bouddha comme étant êtres vivants. Parce que eux ont quitté le monde des six voies, et ils commencent à devenir ceux qui dirigent leur vie, qui orientent leur vie. Donc il est dit, à propos de Satta, Bodhisattva, Sattva, il est dit, Satta est le courage. Le courage, c'est le bon Dieu matin et soir, pour nous. En outre, il est dit que c'est la bienveillance. Autrement dit, le courage est EST, la bienveillance. Donc le courage, qui est la bienveillance, est le fait de pratiquer matin et soir, et par ce fait même, d'entraîner une infinité d'êtres avec nous. Notre environnement est entraîné par la pratique. C'est ça le courage et la bienveillance. Voilà. Ah oui, bien sûr. Le courage et la bienveillance, c'est le fait de se heurter à ces états de vie multiples et à produire le Bouddha malgré tout. C'est ça qui entraîne. Et bien entendu, en parler éventuellement aux gens. Hein, c'est toujours pareil. Le courage est EST la bienveillance. C'est l'acte du bon Dieu matin et soir. Donc il est dit, dans l'état de Bodhisattva, c'est Nietzsche, hein, dans l'état de Bodhisattva, l'être fait peu de cas de lui-même, cela au profit de tous les autres, de tous ceux qui se trouvent dans les six premiers états. Le mal, il désire le garder pour lui, le bien, il le donne aux autres. Et vous remarquerez dans les prières silencieuses matin et soir que l'on fait, il y a, enfin, grâce au fruit du monde de la loi, obtenu également par les autres et soi-même, revenons ensemble vers la lumière paisible. Donc, le fruit du monde de la loi qu'on engendre en pratiquant, on donne aux autres et soi-même. Mais le premier acte, c'est les autres. Donc, c'est le fait de pratiquer matin et soir qui est l'offrande du monde de la loi aux êtres qu'on entraîne avec nous. Autrement dit, tout ce qui nous est propre, à travers la haine, la joie, la jalousie, la colère, toutes les relations humaines qu'on peut avoir, eh bien, tous ces êtres bénéficient du fruit du monde de la loi, parce que nous pratiquons. C'est le courage et c'est la bienveillance que de pratiquer.
Il y a tout ce qui nous compose.
Oui, tout ce qui nous compose et tout ce qui est ce à quoi nous conservons. Les êtres qui nous ont été chers, qui nous sont chers, ou les autres, ceux qui ont disparu, et tout ça. Rappelez-vous Parménide qui dit, ce qui est absent, considère-le quand même par la pensée comme étant présent, car tu ne pourras pas séparer l'étang de l'étang. Ah oui, c'est parfaitement clair. Donc, à ce propos de la bienveillance et du courage qui consiste donc à pratiquer et à en parler, hein, selon nos possibilités, Nikken Shonin dit la chose suivante. Le problème n'est pas de faire des erreurs, ni de considérer comme respectable le fait de les éviter. Le problème n'est pas de faire des erreurs, ni de considérer comme respectable le fait de les éviter. Pourquoi ? Parce que, je prends mon cas personnel, je rencontre des pratiquants irréfléchis qui me disent, avec un frémissement de terreur au fond de leur voix, ils savent que j'enseigne la loi, moi. Donc ils me disent, mais si tu faisais des erreurs, mais évidemment, essayer de transmettre l'enseignement et l'enseignement profond du Bouddha, tu ne peux pas te faire d'erreur, par manque de profondeur, par spiritualité, ou parce que tu n'as pas tout lu, donc tu ne peux pas ne pas faire d'erreur. Par contre, ce qui est grave, c'est l'erreur de ne pas transmettre la loi. C'est la plus grave. Oui. Donc je répète, le problème n'est pas de faire des erreurs, ni de considérer comme respectable le fait de les éviter. D'ailleurs, à ce propos, je vous signale cette phrase de Ziyi, qui avait fait un cours pour des moines, et la question était venue par rapport aux actes répréhensibles commis par les moines, les graves erreurs qu'ils avaient pu commettre. Alors, Ziyi leur a dit la chose suivante. Si la faute est grave, oubliez les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que la faute elle-même, et méditez pour percevoir l'aspect réel de votre existence. Donc, en cas de faute, je répète, il leur dit, oubliez les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que la faute elle-même, et observez l'aspect réel de votre existence en pratiquant. C'est ça qu'il dit. Comment échapper aux fautes? D'ailleurs, de mémoire, Nichiren dit, quand bien même ce serait sa dernière existence en ce monde, comment pourrait-il éviter les erreurs? Ouais. Bien sûr, c'est clair.
Ce qui est important, c'est la sagesse qu'on peut tirer de tout réellement.
Bien sûr. Et le courage, c'est la pratique, hein, madame Espoir.
On ne peut pas faire mieux que
T'es né con, ou femme ou homme, tu peux pas dire pousse, je vais être ailleurs un autre jour.
Tu peux faire toute ta vie à se plaindre parce que tu as fait des erreurs et quoi, tu vas avancer.
Tu peux pas.
Finalement, ça va t'arriver à
faire des erreurs. Tu sens que t'as gêné.
C'est de la souffrance inutile.
Mais c'est pas que t'as gêné, évidemment, tellement.
Voilà. La culpabilité est inutile.
Culpabilité.
Ça sert à rien.
Si j'avais su, j'aurais dû.
Ça sert à rien.
Et le bon.
Le remords, non. Voilà, bien sûr.
Ça retarde.
Dans son enseignement oral, Nichiren nous dit que une grande bienveillance, donc qui caractérise cet Bodhisattva, une grande bienveillance est semblable au sentiment d'une mère pour son enfant. Semblable. Il dit également, même les hommes vils aiment leurs enfants et leurs femmes. C'est un aspect de l'état de Bodhisattva. Donc au sein des six voies, même chez un homme vil, il y aura des propensions à respecter telle chose ou à aimer telle chose comme ça. Donc il y a... Hein? Même chez les animaux, bien sûr, qui protègent leurs enfants, qui sacrifient pour leurs enfants, bien sûr. Dans le traité de la guirlande, le traité de la guirlande de fleurs, Nagarjuna dit, le Bodhisattva a fait vœu de sauver tous les êtres de leur souffrance. Son cœur est dépourvu de crainte, et il s'identifie avec toutes les formes. Dans ce qu'on récite matin et soir du Gongyo, il y a, ah oui, tout à fait à la fin, Maiji Sazanen, Igaryo Shujo, Tokonyomu Jodo, Sokojo Bushin, qui signifie, globalement, Shakyamuni donc dit, je suis toujours préoccupé par le fait de savoir comment faire pour amener tous les êtres à l'éveil. Eh bien, en fait, c'est ce qui va nous arriver à nous aussi. Faire bon Dieu matin et soir va nous amener à un moment dans notre vie où on va réaliser que la seule préoccupation la plus grande que l'on ait, c'est comment faire pour amener les êtres à l'éveil. C'est ce qui se passe. On va réaliser, on va s'identifier à ce qu'on lit matin et soir, parce qu'on va voir que c'est l'état, on va ressentir que c'est l'état le plus élevé de nos vies. C'est pour ça que la pratique est physique, pour qu'on puisse réaliser physiquement que notre vœu, dénué de crainte Et donc le plus courageux, c'est en fait d'entraîner vers l'éveil tout ce qui nous est propre. Parce qu'il n'y a que là que les choses peuvent être grandes et riches. Et pas dans les autres états. On s'en ressent sur les mesures en pratiquant. Donc il est dit, tous les bouddhas et bodhisattvas possèdent le corps de la loi et le corps vivant. On appelle corps de la loi le principe ultime dont ils ont eu l'attestation. On appelle corps vivant le corps de chair qu'ils ont confié à un père et à une mère afin de naître pour sauver les êtres. Donc notre corps devient un corps vivant dans la mesure où on rentre dans l'enseignement du Bouddha et où on fait apparaître en nous l'état d'éveil par les facteurs et l'état de bodhisattva. Le corps devient vivant. Et le principe ultime qu'on a en nous, c'est le corps de la loi, c'est-à-dire qu'on continue, on a reçu et on garde la loi qu'on pratique. C'est ça le courage, c'est ça la bienveillance. Aussi, dans le traité sur la causalité dans les 10 états, Nichiren dit la chose suivante. L'état de bodhisattva signifie que parmi les simples mortels soumis aux 6 premières voies, certains savent s'oublier et accorder de l'importance à d'autres qu'eux-mêmes, assurant spontanément des difficultés et donnant ce qu'elles ont de meilleur. De telles personnes connaissent donc l'état de bodhisattva. Donc au sein de l'état humain dans les 6 voies, on peut sentir cette propension, mais ce sont les propensions qui montent et descendent, qui ne restent pas, qui sont recouvertes par d'autres états de vie, mais on peut sentir quand même, on peut voir par moment quand même que cela existe. Pour en revenir à nous, pratiquants, dans le chapitre Maître de la loi du Lotus, il est dit que le pratiquant entre dans la chambre du Bouddha, se vêt de sa robe et s'assoit sur son siège. Rentrer dans la chambre du Bouddha, c'est percevoir que les phénomènes ne peuvent ni apparaître, ni disparaître. Revêtir sa robe, c'est revêtir la robe de douceur et de persévérance vis-à-vis de des innombrables cas distincts des souffrances des êtres. Et s'asseoir sur son siège, c'est réaliser que tous les phénomènes sont dans la vacuité, c'est-à-dire que à phénomène donné, aussi bien l'éveil qu'autre chose peut apparaître. Donc tous les phénomènes sont sans naissance ni mort, on agit par rapport à eux avec douceur et persévérance, on continue à pratiquer en somme, et on sait aussi que, en fait, quelle que soit la forme que l'on peut percevoir, il y a une infinie richesse en elle qui fait que l'éveil peut sourdre. Rappelez-vous qu'on pratique devant un 11-11 qui est fait de papier et d'encre, parce que le papier et l'encre peuvent laisser apparaître aussi l'éveil. Donc il n'est pas une forme humaine qui serait infoutue de laisser apparaître l'éveil parce qu'elle est trop laide ou trop méchante, comme ça c'est pareil, bien sûr, sur le principe. Et donc Nichiren dit dans l'enseignement oral, puisque par notre pratique, nous nous efforçons de ne pas chérir notre vie, nous pouvons demeurer sur le siège de la vacuité. Dans la mesure où on pratique matin et soir, donc on ne chérit pas notre vie à ce moment-là, parce que n'importe qui pourrait être bien, qui te fait chier à pratiquer, viens donc boire un poids avec moi, tu passes une heure par jour, c'est beaucoup trop, tu pourrais faire autre chose. Donc il y a bien un sacrifice, c'est bien une assaise, c'est matin et soir quand même. Donc Nichiren dit, puisqu'on pratique cette assaise et qu'on ne chérit pas notre vie et nos pensées en pratiquant, on peut rester sur le siège debout et on peut donc voir la vacuité des phénomènes et l'infinie richesse inhérente à tout ce qui est. C'est pour ça que le Bouddha originel dira aussi, cela est drôle, dans l'enseignement oral, il dit, vous devez considérer l'apparition des difficultés comme étant l'expression du sutra, vivre une vie paisible dans ce monde. Et forcément, s'il y a le courage de la pratique, la bienveillance naît aussi. Forcément, il va y avoir à un moment ou à un autre le désir de transmettre, de dire les choses que l'on voit en tant que pratiquant. Bon, ça va faire apparaître, ça va lever des montagnes de difficultés. Donc, propager la loi et faire apparaître des montagnes de réactions, c'est l'expression du sutra, vivre une vie paisible dans ce monde. Oui, c'est ça, hein.
Pas être en proie du feu,
voilà.
Et à lire.
Nichiren dit aussi, il dit, quand un obstacle se dresse, le sot s'enfuit et le sage se réjouit. Quand un obstacle apparaît, un sot pense que il y va de sa vie. Alors que le sage sait que c'est sa propre vie. Donc l'obstacle quand Nichiren s'est levé le Japon contre lui, il savait bien que c'était sa bienveillance qui produisait ça. Donc il n'était pas effrayé. Les disciples ont été effrayés devant les persécutions. Mais lui, il n'était pas effrayé, vu qu'il disait que c'est son action qui entraîne ça. Comme il attaque l'obscurité fondamentale chez les êtres, forcément ça fait des remous. Mais il n'est pas effrayé de voir les remous qu'il produit. Il voit la nature des remous. C'est pareil pour nous, hein, à notre niveau, bien sûr. Également, dans l'enseignement oral, toujours à propos de cette Bodhisattva, Nichiren dit, ce qui résulte de l'interaction entre l'être et la loi est la bienveillance. Ça, on ne peut pas y échapper. Et on encourage les pratiquer matin et soir, c'est ce qui se produit. Et enfin, le dixième état, on a donc fait le tour. Ben là, j'ai rien à dire parce que, en fait, l'état de Bouddha, c'est Myōrolin Gekkyō. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Nichiren dit, quand il est exilé à Sado, Nichiren ressent les souffrances générales et particulières de tout ce qui vit. Donc ça, c'est l'état de Bouddha. Sagesse supérieure, perception de la réalité phénoménale telle qu'elle est. Autrement dit, alors qu'il est exilé, seul sur son île, tout ce qu'il vit est son propre corps. Et Nichiren dit, l'état de Bouddha est le plus difficile à expliquer. Mais comme vous possédez les 9 autres états, vous devriez croire que vous possédez également la bodhiité. Aussi, le qualificatif de Nyōrai pour Bouddha signifie venir de la vérité. Donc le Bouddha perçoit la vérité comme le corps de la loi, et sa sagesse en provient à chaque instant, donc il vient de la vérité. Et son corps est le corps en fonction du besoin des êtres. Le corps est la réponse à l'attente des êtres. C'est ça donc la grande bienveillance du Bouddha. Il dit aussi, ni la terre pure ni l'enfer ne se trouvent ailleurs que dans notre propre cœur. Celui qui s'éveille à cette vérité, on l'appelle Bouddha. Celui qui l'ignore est un simple mortel. Et encore dans l'enseignement oral, il dit, réaliser que notre corps et notre esprit sont originellement ceux d'un Bouddha est appelé grande joie. Nam-myōrolin Gekkyō est la plus grande de toutes les joies. Ça, à un moment, on va pouvoir aussi le réaliser, n'est-ce pas? C'était souhaité. Et dernière chose encore sur les 10 mondes. C'est le concept de Jikai-Gogu, c'est-à-dire que les 10 mondes sont dans les 10 mondes. Toujours. Donc, Nikken Shonin explique. Comme vous le savez, le principe d'une pensée 3000 est expliqué dans le 5e volume du grand arrêt examen de Ziyi. Le traité qui ouvre les yeux de Nichiren mentionne quant à lui, le concept d'une pensée 3000 s'appréhende d'abord par la compréhension de la possession mutuelle des 10 mondes. La possession mutuelle des 10 mondes est d'une importance fondamentale pour comprendre le principe d'une pensée de 3000. En observant le monde des phénomènes, le Bouddha compara les innombrables formes de vie et établit 10 distinctions majeures nommées les 10 mondes. Prenez par exemple un ver de terre. La vie d'un ver de terre inclut tous les 10 mondes. L'enfer, l'avidité, l'animalité, la colère, l'humanité, la joie, l'état d'auditeur, l'éveil partiel, le bodhisattva et le Bouddha. Bien entendu, chaque être humain possède les 10 mondes. Or, le fait que les 10 mondes se contiennent mutuellement est la véritable nature inchangeable et éternelle de la vie. Donc, c'est toujours là une pensée momentanée qui jaillit de l'enfer, de l'avidité, de ce que vous voulez. C'est toujours là une pensée momentanée qui est l'axe de cela. Nichiren dit, le point difficile à croire et à comprendre sur le plan de l'illumination du Bouddha réside dans le principe d'une pensée de 3000 qui explique que même les êtres non sensitifs possèdent les 10 ainsi et sont dotés d'aspects matériels et spirituels. Myōle dit, une plante, un arbre, un galet, un grain de poussière, tout cela relève de la loi des causes et des effets, possède une nature de Bouddha inhérente, dans les causes et les conditions. Donc pour le Bouddha, tout ce qui est étant produit par les causes et conditions, tout possède les 10 états. Donc dans un état donné, avidité, minéral, végétal, grain de poussière, dans cet état qui est montré en tant qu'enfer ou ce que vous voulez, eh bien, il y a les immondes, il y a le Bouddha aussi. C'est pour ça que l'encre montre le Bouddha. L'encre des papiers. Donc, si, comment dire,
on pourrait jamais interroger.
Voilà, s'il n'y avait pas les 10 mondes dans les 10 mondes, on n'aurait pas besoin qu'on ne pratiquerait pas devant un Hanzong, et même le mur au Lingekyo ne serait rien. Mais le mur au Lingekyo est une forme phonétique. Donc, c'est un monde qui est celui de l'éveil. C'est pour ça qu'on peut le pratiquer nous-mêmes, donc, voilà. Je sais pas s'il est tard, donc on est peut-être marre. J'ai pas été bien loin, là, aujourd'hui. Et pourtant, j'ai parlé tout le temps. Donc, je finirai là-dessus. Bien que nous soyons tous des existences dotées de 10 mondes, nous nous trouvons immergés dans les 6 mondes que sont l'enfer, l'avidité, l'animalité, la colère, l'homme et le ciel, selon les conditions, et en particulier à cause des karmas que nous avons créés dans le passé. Une telle vie ne peut pas être considérée comme respectable. Cependant, votre vie devient vraiment respectable à partir du moment où vous recevez le sutra du lotus d'Aishanin avec foi et que vous menez votre vie avec. Je terminerai juste, parce que là, il est quand même au moment que je parle. Hein? Vous en avez marre? On peut continuer encore? Non, je vais arrêter maintenant, là. Hein? Et je vais vous citer quand même une très belle chose. Je vais préparer. Ah ouais. Pour finir en beauté. Par la foi, on se soutra tel que l'enseigne ces phrases, sans y intégrer vos propres pensées, sans utiliser la parole des hommes, et si vous adhérez au lotus en son intégralité, alors vous deviendrez Bouddha. Devenir Bouddha n'est pas quelque chose de particulier. Si vous récitez seulement Nam-myoho-renge-kyo, vous vous doterez naturellement des 32 signes et des 80 marques distinctives. Vous deviendrez Bouddha facilement. Comme Shakyamuni le disait, deux points, comme moi, sans différence. Par exemple, au début, l'œuf d'un oiseau est liquide. Sans que personne n'intervienne, voilà qu'apparaît un bec, voilà des yeux, et enfin, il peut s'envoler dans le ciel. Nous-mêmes sommes des œufs, longés dans l'obscurité, et doté de corps pile. Cependant, prouvé par notre mère, la récitation de Nam-myoho-renge-kyo, le bec des 32 signes apparaît, et les plumes des 80 marques distinctives poussent, nous permettant alors de voler dans le ciel et d'inciter du véritable aspect. À ce sujet, le sutra énonce, l'ensemble des êtres demeure dans l'œuf de l'obscurité, et est dénué du bec de la sagesse. L'éveillé, comme la mère revenant au nid de la cohabitation et des naissances délimitées, brise en le frappant l'œuf de l'obscurité, permettant ainsi à tous les êtres de quitter le nid et de s'envoler dans le ciel de l'incité de la nature de la loi.
Oh, la mère, c'est
La mère, c'est Nuremi.